ciel ouvert. Temps fort des Quinconces et l'Espal, une émission de Radio Alpa présentée par Charlie Pless.
Bonjour et bienvenue sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Bonjour Charlie Pless.
Bonjour Jean-Yves Bretot.
Nous sommes ce vendredi 12 septembre 2025 en direct du théâtre des Quinconces au Mans, une émission pour vous présenter la saison culturelle 2025-2026 de la scène nationale des théâtres des Quinconces l'Espal. Une saison qui vient d'être lancée avec son temps fort à ciel ouvert et qui se poursuit jusqu'au 27 septembre. On vous en dit plus dans quelques instants sur les rendez-vous des spectacles en extérieur qu'il ne faut pas manquer, à commencer par les représentations en déambulation du spectacle Le PD, ce vendredi à 19h, samedi à 18h et dimanche à 16h à partir de la rue du Capitaine Flush. Et nous aurons un grand plaisir à accueillir dans cette émission Brice Lagenèbre du collectif Janine Machine qui nous parlera de ce spectacle de rue extraordinaire qui a enchanté plus de 300 personnes jeudi soir. Bonjour Virginie Bocard.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la scène nationale des théâtres Les Quinconces l'Espal. Il y avait de grosses craintes, il faut le dire, pour la représentation extérieure de ce spectacle derrière Les Quinconces en raison d'une météo pluvieuse. Ouf, il n'a pas plu, il ne devrait pas pleuvoir non plus ce soir. Et en observant les réactions du public, avec près quand même de 300 personnes extrêmement ravies, je vous ai vu heureuse, vous aussi, d'avoir programmé ce spectacle. Est-ce que cette représentation était un pari risqué pour sa fréquentation, tant pour son sujet que pour les conditions météo ?
Bon, la météo, oui, ça c'est sûr, de faire le choix d'avoir un temps fort qui défende des œuvres qui se jouent à l'extérieur, donc ça c'est toujours risqué, mais on voit que ça passe tout le temps. Je continue à toucher du bois et de programmer le PD, ce spectacle-là, je dirais que la prise de risque, elle est sur la série des quatre représentations. De se dire qu'on souhaite que ce spectacle, par l'intensité du parti pris artistique, de son écriture, de ce que ça raconte, de la force d'interprétation, bon bref, du spectacle en lui-même, ses qualités artistiques, évidemment elles sont évidentes, mais de se dire que 4 soirs de suite, on a l'intention d'accueillir de nouvelles personnes et que le bouche-à-oreille fonctionne. J'y croyais tellement que je pense que j'aurais pu faire une série d'un mois avec la compagnie. Et au départ, c'était 2, après 3, puis après 4. Ils nous ont dit, vous êtes sûr, mais vraiment, vous êtes sûr. Et oui, c'était sûr. Et vraiment, ça dit pour nous cette intention-là de défendre des œuvres qui jouent dehors et des œuvres aussi qui sont extrêmement fortes par ce qui se raconte, mais pas seulement par ce qui se raconte, par toute cette... Il y a le fond et il y a la forme. Et je tiens vraiment à le dire aujourd'hui. Donc je crois que le bouche à oreille a fonctionné. Hier sur les réseaux, c'était de la folie, des messages reçus de partout. Et je remercie vraiment l'ensemble de l'équipe qui fait un travail, je trouve, absolument... magnifique, ouais, qui nous touche et qui nous bouleverse.
Alors, on aurait pu s'attendre à un public communautaire, spécial LGBTIA+, mais il y avait un public très hétéroclite et de toute génération.
Je pense que la force du travail là, qui a été mené par la scène nationale avec l'ensemble de nos partenaires et aussi l'équipe d'Homogène qui est sur ce plateau, c'est d'avoir rassemblé le plus largement possible. Et donc, vous l'avez dit, il y avait un... en fait, c'est ce qu'on aimerait avoir toujours dans les salles, mais en fait aussi en fonction des œuvres, puisque certaines œuvres ont touché plutôt type de personnes que d'autres par rapport à ce qui se raconte, par rapport aussi à l'esthétique. Et là, j'étais contente aussi, puisque l'équipe situe aussi la proposition ici au Mans, d'entendre, oui, le Mans, on fait une marche des fierté sauvage. Enfin, j'ai l'impression que les choses, elles étaient aussi tellement situées et ça donne sens à notre métier et à ce que l'institution, parce que en fait, c'est quand même une institution, ce que notre établissement est en mesure de faire et de fédérer. Et j'en suis, je suis très heureuse.
Alors, vous avez été aussi aux petits soins avec le public, avec des petits matelas pour s'asseoir, des petits fauteuils.
Oui, enfin, ça, c'est, on va dire, un minimum. Mais je pense qu'effectivement, on chouchoute bien le, on chouchoute bien le public. Et quand, dans certains autres festivals, je l'ai vu à Chalon, on était... c'est beaucoup plus sauvage, puisqu'on était très nombreux, je crois, 600, où on était beaucoup. Mais voilà, c'est des attentions, et les attentions sont importantes. Et là aussi, les riverains qui sont bien impactés pendant 4 soirs et 4 journées, puisqu'ils ne peuvent pas se garer, etc. Donc là, on va à nouveau leur dire merci de nous accueillir dans vos rues pendant ces 4 journées, puisque voilà, il y a quand même une emprise sur leur liberté de déplacement à un moment donné.
Justement, ils ont réagi comment, les riverains, quand vous êtes allés les voir? D'ailleurs, ils participent à un moment dans le spectacle. Il y a eu... vous n'avez pas eu de retour d'hier soir, par exemple?
Non, pas du tout. Et si on en a, on va... En tout cas, là, on a acheté une petite boîte de chocolat pour des riverains, comme vous le dites. Ben écoutez, je pense qu'aussi on peut être en mesure d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, et nos actions sont aussi toujours perfectibles. Mais je tiens à dire qu'effectivement, c'est comment on prend soin aussi de l'accueil du spectacle là, dans ce quartier là, et en se disant que peut-être l'œuvre va rencontrer des personnes qui ne pensaient même pas que l'EPD, ce spectacle, allait pouvoir raconter tout cela de cette façon là.
Voilà, en tout cas, beaucoup de riverains étaient à leur fenêtre pour regarder ce spectacle, un spectacle que le public pourra voir encore ce soir, vendredi à 19h, samedi à 18h et dimanche, ça y est, j'ai un chat dans la gorge, à 16h. Charlie Pless.
Oui, tout à fait. Alors, on le rappelle, hein, quand même, nous sommes en plein dans le premier temps fort de la saison Les Quinconces et l'Espal, ce temps fort à ciel ouvert. Alors, Virginie Bocard, directrice des Quinconces et l'Espal, pour commencer cette émission avec vous, toujours un petit mot quand même sur ce temps fort à ciel ouvert. Pourquoi ouvrir la saison comme chaque année maintenant, avec ce temps fort qui emmène le théâtre hors les murs?
Parce que ça fait partie de la ligne artistique de la scène nationale, et que pour pouvoir accueillir le maximum de propositions dehors sans prendre trop de risques aussi avec la météo, c'est plutôt le mois de septembre jusqu'à début octobre, ou sinon le mois de mai et juin. Et donc on retourne dans la rue dans les mois de mai et juin en général. Mais là, c'est aussi une façon pour nous d'ouvrir la programmation et avec des artistes qui pensent et qui écrivent des œuvres pour la rue, pour des jardins. Donc ça, c'est un vrai parti pris artistique, et ça veut dire que ce sont des œuvres, c'est pas parce qu'elles ne font pas dans des boîtes noires, c'est pas des œuvres qui sont inintéressantes artistiquement, bien au contraire. Donc voilà, c'est un parti pris de programmation.
Et ce qui est intéressant, c'est que les différentes programmations culturelles de Mende dialoguent un peu du coup avec ça, parce que le premier acte du plongeur aussi met en avant plusieurs spectacles hors les murs. C'est un enjeu pour les artistes, en fait, de déplacer le spectacle vivant hors de la scène, hors de ce cadre-là.
Oui, mais c'est pas nouveau, hein, que des artistes écrivent et pensent pour la rue. Avant, j'étais dans le Jura, ça fourmillait de compagnies historiques venant des arts de la rue. Je pense le théâtre groupe, le théâtre de l'Unité. Bon, voilà, je vais pas tous les citer. Donc, en tout cas, c'est pas récent, mais je pense que depuis aussi les années Covid, un certain nombre aussi de directeurs et directrices artistiques ont eu une attention tout particulière. Particulièrement pour les programmations, enfin pour les artistes qui créent des spectacles pour la rue. Vous vous rappelez, à un moment donné, on ne pouvait plus rentrer dans les salles de spectacle, et ça se faisait donc dehors, et c'était le seul moyen de programmer. Et aussi, pour un certain nombre d'artistes, et aussi de jeunes artistes, mais aussi pour les anciens, les historiques, il y a une façon d'écrire et formellement les œuvres, et de penser un autre rapport aussi à la population. Donc ça fait aussi partie des motivations qui sont les nôtres, non seulement au-delà des œuvres comme elles sont pensées, mais qui nous permettent d'inventer, d'écrire une autre relation à une population, à un territoire. Et donc pour moi, quand je suis arrivée il y a 6 ans, c'était important de placer les arts de la rue au cœur du projet.
Alors, on a déjà pas mal parlé du spectacle l'EPD. On va continuer à en parler en détail tout à l'heure avec Jean-Yves Breteau et Brice Lagenèbre, puisque les représentations ont lieu ce week-end jusqu'au dimanche 14 septembre. Et puis, les prochains rendez-vous, ce seront donc le week-end prochain du 19 au 21, avec deux spectacles où interviennent la danse et le chant, It's a Pop Classic Parade et la nouvelle création de la compagnie Zoutano Bazar. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Oui, donc deux compagnies de la région. Déjà, ça, c'est important de le noter, vu le cataclysme qui est arrivé avec le désengagement de la région il y a à peu près 6 mois. Donc, il était important aussi dans notre projet et dans ce temps fort à ciel ouvert d'accueillir tout particulièrement des compagnies régionales qui créent pour en dehors des salles.
Ça a eu un vrai impact sur votre réflexion pour la programmation de cette année ?
Absolument. Et d'ailleurs, sur la programmation de à ciel ouvert, se dire on programme les compagnies sur des temps longs et peut-être un peu moins de spectacles, mais on fait le pari aussi de la série. Ça, c'était aussi une autre façon de programmer. On a ouvert la semaine dernière avec Mirage, la compagnie Diptyque, pour 3 représentations, 3000 personnes aussi. Donc là, c'est des vrais paris, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va au-delà des personnes qui viennent habituellement dans les salles de spectacle. Et donc, sur Hip-Hop Classic Parade, c'est un temps d'une. C'est un spectacle qui est un spectacle de danse. On a des casques et en fait, ça nous invite à un bal avec les personnes qui seront là, le public qui sera là. Et la création de Florence Loison, là, on est vraiment sur une fusion entre la danse et la musique baroque. Florence Loison, elle est bien connue ici sur le territoire de la Sarthe. Et là, elle va dans une nouvelle aventure où elle va à la fois dans musique baroque, les musiques électroniques aussi, avec 2 danseuses au plateau. Et donc on est très impatients découvrir cette prochaine création.
Et ça aura lieu pas tout à fait à ciel ouvert, car ça a lieu à la chapelle de l'Oratoire, c'est bien ça?
C'est ça, mais à ciel ouvert, c'est effectivement dehors ou dans d'autres espaces qui ne sont pas les espaces des théâtres et qui ne sont pas des boîtes noires traditionnelles.
Mais le spectacle qui nous intéresse ce week-end du 12 au 14 septembre, c'est le PD du collectif Janine Machine avec Brice Lagenèbre, Jean-Yves Breteau.
Bonjour Brice Lagenèbre.
Bonjour.
Quel spectacle, quelle performance, quelle création. Durant 2h15 avec votre complice Céline Bertin, votre déambulation du spectacle théâtral, le PD, va nous rafraîchir la mémoire sur l'origine de la Marche des Fiertés. Alors on va dire de la Gay Pride pour celles et ceux qui ne sont pas encore à jour. Nous rafraîchir la mémoire de toutes ces années d'humiliation, de pénalisation, de violence, de militance, de déportation, d'emprisonnement, de discrimination, de toutes ces années de lutte qui ont émaillé l'histoire de la communauté LGBTIA+, contre les homophobes, les réacs, les bien-pensants. La lutte et la rébellion de la communauté homosexuelle, tout commence avec une date, un moment décisif, celle du 28 juin 1969. Nous sommes à Greenwich Village, à New York. Une émeute de toute la population gay, lesbienne, travestie, transsexuelle va s'opposer aux forces de l'ordre. Ces forces de l'ordre qui ont pris l'habitude de descentes musclées dans les bars gays clandestins, oui, parce que, à l'époque, déjà, on se cachait pour essayer de vivre sa sexualité. Mais c'est cette émeute que l'on célèbre toujours aujourd'hui avec la Marche des Fiertés. Votre spectacle, le PD, nous emmène sur toutes les luttes qui ont jalonné la culture queer d'aujourd'hui jusqu'au mariage pour tous, donnant les mêmes droits de l'adoption et du mariage aux couples de même sexe. On était le 17 mai 2013. Pourquoi, Brice Lagenèbre, était-il important de construire ce spectacle qui rappelle au public tous les événements marquants de ces combats contre l'invisibilité?
Voilà, la réponse est dans la question. Parce que c'était invisibilisé, que cette histoire n'est pas connue, et que je pense qu'il faut qu'elle le soit. Parce que l'histoire, elle est subjective et qu'elle appartient à celui qui la raconte. Et que de tout temps, on nous raconte l'histoire avec des conquêtes de territoire, des conquêtes de pouvoir, des enjeux de pouvoir, et des hommes sur des grands chevaux avec leurs grandes épées. Et on ne parle pas d'autres histoires. Parce qu'il y a celle-là, mais il y en a plein d'autres. Et en l'occurrence, celle-ci, je la raconte avec mon regard à moi, et c'est important de le noter, qui est celle d'un homme blanc, cisgenre, de classe moyenne, parce que du coup je vais raconter l'histoire avec ce regard-là, et que quand j'ai fait ces recherches à la base, je voulais faire un spectacle autour de la question du PD, des PD, et je savais pas par quel biais prendre la chose, donc je suis rentré en recherche, et c'est là que je me suis rendu compte que l'histoire je la connaissais pas, et en parlant avec des gens proches de moi, je me suis rendu compte que cette histoire elle était pas connue, et je me suis dit tiens bah voilà, on va la raconter.
C'est justement un spectacle qui rappelle certainement aux plus jeunes de la communauté les luttes essentielles qui ont été portées par leurs aînés dans des mouvements comme le Front Homosexuel Action Révolutionnaire, aux côtés, faut-il le préciser, du MLF, du groupe de libération homosexuelle mais aussi d'ACT UP en 1987. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un spectacle éducatif qui rappelle aux hétérosexuels que tout ce que la communauté a dû endurer et tous les combats qu'elle a menés pour exister sans se cacher ou sans subir? On a entendu dans le public des personnes dire « Ah, on ne savait pas tout ça ».
Alors, est-ce que le théâtre éduque? Ça, c'est encore ça, c'est une question.
En tout cas, il renseigne.
Voilà, c'est ça. En tout cas, il donne un regard. Il donne un regard sur quelqu'un qui vient raconter quelque chose. Que les gens apprennent des choses, c'est très bien. C'est super. Mais encore une fois, cette histoire, elle est racontée d'un point de vue subjectif, quoi. Donc, bon, voilà, ça, c'est une chose.
Avec des faits objectifs. Avec des dates, en tout cas, objectives.
Avec des dates, oui, avec des dates. Mais la question, elle se pose sur... si tu veux raconter l'histoire des luttes homosexuelles, tu commences quand? Parce que on peut commencer à partir du... Enfin, je veux dire, on peut commencer dès le départ de l'humanité. On peut commencer n'importe quand, en fait. Il y a plein d'histoires. Parce que Stonewall, les émeutes de Stonewall, c'est une parmi d'autres. Il y en a eu d'autres avant, des émeutes. Dans des endroits plus petits, moins ça a pas été retenu. L'histoire, elle retient de toute façon les choses les plus grosses. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Mais c'est pas la première. C'est important de le dire aussi. C'est pas la première et c'est pas la seule. Mais c'est celle qui a duré le plus longtemps. Et donc, c'est celle qu'on retient. À la question de pourquoi est-ce qu'on commence à ce moment-là, on s'est posé la question, on s'est dit, moi je voulais que ce soit une déambulation, il nous fallait un objectif dramaturgique qui explique que cette déambulation, donc on s'est dit ok, on va rejouer des manifestations historiques, et du coup on s'est dit qu'on allait raconter à ce moment-là l'histoire des luttes homosexuelles par le biais de l'histoire des Prides, et donc des marches des fiertés, et donc à quel moment elles ont commencé? Elles ont commencé, enfin en tout cas, la première c'est la commémoration de Christopher Street Gay Liberation Day. Voilà. Après, que les gens viennent, qu'ils apprennent tout un tas de choses, c'est hyper important. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que les gens participent à cette chose-là. C'est-à-dire que on est dans un spectacle où on est dans l'espace public. Pour moi, ce spectacle, il n'a pas de sens ailleurs que dans l'espace public, puisqu'on rejoue des manifestations historiques. Et rejouer des manifestations historiques ailleurs que dans une rue, c'est-à-dire même dans un parc, ça a pas vraiment d'intérêt. Et donc, c'est joué à l'intérieur d'une rue, c'est joué donc dans une rue qui appartient aux gens qui y habitent, c'est joué dans un espace, c'est joué sur un territoire, c'est joué dans une ville qui a un enjeu politique, c'est joué dans un pays à un moment donné. Et donc, tout ça, ça vient... les gens, je m'éparpille un peu, mais les gens qui viennent voir ce spectacle deviennent tour à tour des militants et des militantes d'ACT UP, des militants et militantes du MLF, des jeunes homosexuels qui essayent de trouver un bar clandestin à New York, etc., etc. Donc les gens, ils vivent les choses, au-delà même de les apprendre. Ça tient sur 2h15.
Brice, la journée, comment vous avez travaillé votre performance de comédien nourri par beaucoup de personnages pour le spectacle? On pense à Méni Grégoire, par exemple.
Oui.
Une icône de l'histoire de RTL.
Oui. Comment j'ai nourri?
Oui. Comment vous êtes nourri? Comment vous êtes empreint de vous mettre à la place de...
Bah, en fait, nous, on s'est dit, bon, un des écueils dans lequel on pouvait tomber avec ce spectacle, c'était de faire une conférence. En l'occurrence, on fait du théâtre. Donc, il nous faut des personnages. Et donc, on s'est dit, ok, on va tirer au-delà des personnages, on va tirer des figures. Et on va prendre en charge des figures qui ont existé, des figures fictives. Tata Mona, par exemple, la sœur de la perpétuelle indulgence, n'existe pas, alors que les sœurs de la perpétuelle indulgence existent. Ce personnage est fictif. Il y a d'autres personnages qui sont réels. Guy Hockengame, enfin tous les personnages, la plupart des personnages dont on parle et qui vivent. Et on en a fait du théâtre. Donc ça veut dire qu'on en a fait des figures. On est sorti de la représentation. On n'est pas rentré dans le mimétisme. C'est-à-dire que Guy Hockengame, par exemple, ne ressemblait pas du tout à la personne que je joue. La sœur de Guy Hockengame est venue voir le spectacle et on lui a dit mais est-ce que ça vous pose un problème? Et elle a compris l'enjeu, le fils de Françoise de Beaune aussi. Et les deux, pareil, ils nous disaient bon bah non, nous ça nous pose pas de problème, de toute façon vous en faites bien ce que vous voulez puisque vous en faites du théâtre, vous en faites de l'art, et du coup on sort de ces personnages là et on en fait des figures, et ces figures là nous après, à partir du moment où on a choisi de les décaler, on peut aller où on veut. En l'occurrence, pour Ménie Grégoire, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur le regard, parce qu'elle était quand même considérée comme féministe à l'époque, Ménie Grégoire. C'était une femme qui faisait une émission de radio pour les femmes. Sauf que le point de vue, en tout cas, qu'elle a sur cette émission-là, il est affreux, et qu'elle a fait partie de l'histoire. En tout cas, son émission a permis de se relever, de se soulever, a permis au MLF et au Phare de se soulever, de se créer. D'ailleurs, le Phare s'est créé après ça. Et du coup, elle est essentielle dans cette histoire-là. Moi, après, c'est surtout comment je m'amuse à l'intérieur et comment je compose à l'intérieur avec ce que j'ai envie de donner au caractère. Et puis surtout, il y avait Sarah et Marlène, qui étaient la metteuse en scène et l'assistante à la mise en scène, qui m'amenaient vers des chemins les uns à la suite des autres. Après, comment j'ai composé, ça, je peux pas... Je sais pas.
Alors, il y a toute une interaction avec le public, avec des personnages, monsieur et madame, tout le monde. C'était un choix pour se moquer de ceux qui se moquaient, ou c'était pour apporter aussi la légèreté à ce spectacle ?
Alors, c'est deux choses. C'est d'abord un procédé d'écriture qu'on a choisi. Parce que c'est celui qui nous permet de pouvoir faire des regards sur ce qu'on porte. C'est-à-dire qu'on peut, amener un regard sur un sujet tel qu'il soit, et on peut amener un autre personnage qui vient donner un autre point de vue sur ce regard, et du coup donner un peu plus d'épaisseur et de complexité à ce que nous, interprètes et artistes, on pense sur ce regard-là. Et on n'a jamais on est toujours nourri de plein de petites choses, et on se dit sur un sujet, on se dit oui, mais peut-être que en fait si on regarde comme ça, oui, mais si on regarde comme ça. Et du coup, comme nous on n'a pas envie de donner un regard clair sur un sujet précis, on en donne plusieurs pour que nous on puisse se dire déjà nous-mêmes que c'est en fait un mélange, et qu'ensuite on puisse donner des échos. C'est comme quand Brice, parce que on est bien d'accord que Brice, le narrateur, c'est moi, mais pas que moi. C'est aussi une figure, c'est aussi un personnage. Donc Brice, le narrateur, va avoir un point de vue que Brice, le comédien, n'a pas. Ou il va être plus, il va rentrer dans une impasse, le point de vue de Brice, personnage, alors que le Brice, narrateur, il n'a pas forcément les mêmes regards dessus. Et donc quand Brice, narrateur, dit que c'est pas parce qu'il est pas noir qu'il peut pas faire un spectacle sur l'esclavage, il y a un des personnages de la scène du pour ou contre qui vient dire c'est mieux si ce spectacle tu le fais pas. Et donc à ce moment-là, on a un regard sur, oui effectivement c'est Brice qui joue la Québécoise qui vient dire c'est mieux si ce spectacle tu le fais pas, ce qui vient donner au spectateur le regard de d'accord, donc Brice ne pense pas réellement que c'est pas parce qu'il est noir qu'il peut pas faire un spectacle sur l'esclavage. Et du coup ça, c'est un procédé d'écriture. Et donc non, c'est pas pour se moquer. Et celui de fin, le pour ou contre de fin, celui où donc il y a plein de personnages qui viennent mettre en jeu plein de regards et plein de questions, cette scène-là, elle a plus pour objectif d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans la rue et dans les marches des fiertés, il faut continuer à lutter. Parce que des droits, ça se perd. On le voit, hein. En Italie, on le voit. Hein. En Hongrie, on le voit partout en Europe, et on le voit partout aux États-Unis, enfin, je veux dire, dans le monde. Quoi,
J'y viens justement parce qu'on pourrait se dire que toutes ces violences, toutes ces discriminations sont maintenant derrière nous, et pourtant, des personnes LGBTIA+ sont toujours agressées, huées, méprisées dans notre pays, sans oublier donc les pays qui les emprisonnent, qui les torturent, qui les assassinent. Il demeure donc des combats à mener contre ce rejet et contre ce que des politiques en ce moment dénoncent comme du wokisme.
Oui, moi j'ai une pensée là maintenant tout de suite pour cette directrice d'établissement à Clermont-Ferrand qui s'est suicidée le jour de la rentrée parce qu'elle subissait des violences homophobes. C'était le jour de la rentrée, hein, c'était il y a 15 jours.
Je sais, oui.
Voilà, en France, quoi. Qu'on nous dise qu'on est woke, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Enfin, je sais pas quoi répondre à ça.
Est-ce que ce sont pas les mêmes réacs d'hier ? Les petits enfants des réacs d'hier ?
Je sais pas, franchement je sais pas, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de haine qui continue à se développer, qui continue d'exister, qui est encore là. Nous on a la chance de jamais avoir été confrontés avec ce spectacle à des réticences physiques, enfin à des agressions ou à quoi que
oui,
ce soit.
Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est important que vous le souligniez, parce que quand vous faites votre spectacle dans la rue, il y a des gens qui ouvrent leurs fenêtres et qui regardent, et qui ne sont pas forcément des gens qui avaient l'intention d'aller voir ce spectacle. On a même pu observer parfois des visages un peu circonspects, qui froncent les sourcils, mais qui restent regardés quand même et qui ne perturbent pas le spectacle.
Non, pour l'instant, c'est pas arrivé. Il y a des gens qui sont réticents à l'idée qu'on fasse un spectacle qui s'appelle le PD, mais il y a des gens qui sont réticents au fait qu'on fasse un spectacle tout court. Et que du coup, on peut pas crier à l'homophobie tout de suite, on sait pas. Il y a des gens, alors bon, oui, effectivement, il y a des gens qui sont pas contents qu'on gueule des molécules pour qu'on s'encule dans l'espace public parce que leurs enfants. Mais c'est vrai que ça, pris à part dans le spectacle, bon, effectivement, ce qui était un slogan d'Act Up, un vrai slogan, hein, nous, tous les slogans qu'on donne dans le spectacle, ce sont des slogans qui ont existé. Pour répondre à la question, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est à un endroit où il y a encore des gens qui ont besoin. Je pense aux personnes trans qui vivent aujourd'hui ce que nous on a vécu, on en est aujourd'hui sur l'acceptation des personnes trans, là où on en était sur la question homosexuelle il y a 50 ans, il y a 60 ans, alors que ce sont quand même ces personnes-là qui nous ont permis à nous d'avoir aujourd'hui les droits qu'on a aujourd'hui.
C'est important de le rappeler.
Bah, c'est important de le rappeler, puis surtout ça veut dire qu'il faut quand même continuer à se battre et que c'est bien aussi de se battre pas que pour soi.
Est-ce que ça veut dire, comme on le voit aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, qu'il pourrait arriver quelqu'un au pouvoir en France et que toutes ces conquêtes pourraient être remises en question ?
Ouais. Bah oui, moi j'ai très peur de 2027. J'ai fait un rêve, alors je vous le raconte, c'était un cauchemar. Je sais pas si je peux, mais je le dis.
Allez-y. Vous êtes sur une radio libre.
On était en 2027. Le Front National est passé au pouvoir. On est attaqué pour prosélytisme. Donc je vais au tribunal et puis en face de moi il y a Marine Le Pen, Jordan Bardella, le collectif Janine Machine dans son entièreté et on est nombreux et nombreuses et mes parents. J'ai eu un plaidoyer. J'ai réussi à leur faire comprendre quel était mon point de vue. Ça, c'était mon rêve. Mais tout ça pour dire que...
C'est un rêve, hein. On reprécise.
Non, mais tout ça pour dire que 2027 fait très peur. 2027 fait très peur. Oui, bien sûr. On peut arriver à... Oui, oui.
Justement, il y a un moment du spectacle qui rappelle comment le Front homosexuel révolutionnaire aux côtés du MLF a été accueilli en s'invitant à une manif le 1er mai 71 aux côtés de la CGT. J'ai cru comprendre un message qui parle du collectif dans votre spectacle. Ensemble, on peut changer le monde.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas l'un des messages essentiels du spectacle, le PD ?
Ben, je pense que c'est surtout une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, avec le collectif. Je pense que moi j'ai l'intime conviction, alors peut-être que c'est naïf, peut-être que c'est utopique, c'est possible, mais je crois pas pouvoir penser autrement. C'est-à-dire que je fais des spectacles pour changer le monde, parce que sinon j'arrête ce métier. Il se trouve qu'effectivement on est ensemble, on est une dizaine de personnes autour de ce spectacle, et que c'est important de soulever qu'il y a du monde. On est quand même trois co-auteuristes. Il y a une personne à la diffusion et à la production. Il y a une personne à la production déléguée. Il y a une personne au costume. Il y a une personne à la régie, à la construction du char. Il y a une personne en soutien technique. Il y a plein de gens. Et s'il y a une des personnes qui ne répond pas à l'appel, le spectacle ne peut pas exister. Voilà. Et du coup, oui, je pense qu'ensemble, on peut changer le monde. Ouais.
J'avais envie de vous poser une dernière question pour conclure. Est-ce que votre...
Mais c'est parce que je suis un wokiste de gauche.
Est-ce que... Gauchiste, plutôt.
Ouais.
Oui, parce que de gauche, ça passe encore maintenant, mais gauchiste, c'est plus péjoratif. Pour conclure, est-ce que votre spectacle a permis à certaines personnes, encore peut-être indécises dans l'affirmation de soi, de faire leur coming out ?
Alors ça, je ne pense pas que ce soit un objectif. En revanche, là où moi j'entends qu'on change le monde, c'est quand j'entends que un mec me dit, père de famille, me dit, j'avais jamais été en Pride, j'irai. Ça c'est une première chose. Quand j'entends qu'un prof d'histoire me demande la frise chronologique qu'on donne à la fin pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut inclure cette histoire dans ses cours d'histoire. Ça je me dis, j'ai gagné. Quand y a des gens qui viennent, souvent des vieux PD, des vieilles lesbiennes, qui ont vécu l'histoire qu'on raconte, qui viennent en larmes à la fin du spectacle me dire tu m'as fait revivre des moments que j'avais oubliés. J'ai oublié l'existence d'amis que j'ai perdus. Là, pour moi, on change le monde. On fait pas ce spectacle pour que les gens fassent leur coming out. Ça appartient à chacun et chacune.
Non, mais c'est une boutade, évidemment.
Ouais. Mais en tous les cas, on fait ce spectacle parce qu'on a envie que les gens entendent cette histoire, comprennent qui est à l'origine des libertés qu'on a aujourd'hui, et que encore une fois, ce sont majoritairement des femmes, que les luttes, elles ont été invisibilisées, que les femmes de ces luttes ont été invisibilisées par les hommes. C'est tout ça qu'on a envie de mettre à jour dans l'espace public.
Merci beaucoup, Brice Lagenèbre. On rappelle que le public peut découvrir encore le PD ce vendredi à 19h, samedi à 18h et dimanche à 16h. Charlie, ce n'est pas le seul spectacle queer qui est programmé lors de la saison 2025-2026 de la scène nationale des théâtres du Mans, les Quinconces, l'Espal. On en parle dans quelques instants, juste après cette respiration musicale avec Paloma de Rebecca Warrior.
Je déambule tard dans la ville. J'ai mis mon plus joli visage. Je suis agile et volubile. Mais c'est grâce à mon maquillage. Qui sait qui je suis dans le fond? C'est mon secret le mieux gardé. J'ai beau m'afficher ma mission, reste le gâché ou brisé.
FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Toujours sur Radio Alpa, sur 7.3 FM Le Mans et radioalpa.com en direct des Quinconces pour la présentation de la saison 2025-2026 des Théâtres du Mans. Et Charlie, on présente d'autres spectacles queer de cette saison.
Oui, parce que le spectacle Le PD de Brice Lagenèbre, avec qui on était tout à l'heure, ce spectacle en fait, il participe à une thématique assez présente cette année dans la programmation Les Quinconces et l'Espal sur la culture, les droits et la vie des communautés LGBT. Plusieurs spectacles entrent dans cette programmation qu'on peut qualifier de queer. Pour nous en parler, nous sommes toujours avec Virginie Bocard, directrice des Quinconces et l'Espal, avec Julie Lecomte, directrice adjointe, ainsi que Rémi Rouziès, chargé de mission pour Homogène, le centre LGBT du Mans. Bonjour à vous pour ceux qu'on n'avait pas entendus jusque-là. Vous pouvez nous dire bonjour.
Bonjour.
Alors, en fin de saison dernière, au moment de la Marche des Fiertés, les Quinconces avaient organisé une exposition queer en partenariat avec l'association Homogène, le centre LGBT du Mans. Est-ce que ce partenariat, il est ici prolongé?
Oui, on a toujours la volonté de pouvoir exposer dans ce magnifique espace des Quinconces, d'autant plus que la Marche des Fiertés se fait désormais place des Jacobins, donc ça a tout son sens.
Et alors pourquoi ce partenariat en fait entre un centre LGBT et une scène nationale?
Ça s'est au départ un peu fait par hasard, c'est-à-dire qu'on connaissait déjà l'équipe des Quinconces grâce au temps fort des Inspirantes sur lequel on avait été partenaire. Et puis voilà, les liens se sont renforcés. On a eu aussi des problèmes de locaux avec des infiltrations d'eau importantes qui nous ont obligés à devoir trouver un lieu de repli, et les Quinconces nous ont accueillis. Et en fait, on s'est dit que l'objectif était double. Il y a à la fois la volonté de mettre en avant une culture queer, puisque le problème de dire homosexuel, c'est qu'en fait on considère que la différence, elle est uniquement sexuelle, mais il y a aussi tout un champ culturel qui s'est développé avec donc une culture qui a dû se faire en contre-culture et qu'on retrouve aujourd'hui dans les spectacles. Et donc c'était aussi important pour nous de mettre ça en avant. Et puis il y a aussi le fait que dans la population LGBT, on a aussi toute une partie de population qui est précarisés, qui pensent que le théâtre c'est pas fait pour elles, que ce sont des spectacles pour les riches blancs bourgeois. Donc c'est aussi l'idée de les amener vers le spectacle vivant, de leur montrer qu'elles peuvent y avoir accès. Et donc dans cette programmation de cette année, il y a à la fois des spectacles qu'on pourrait qualifier de queer dans la façon dont se fait le spectacle, mais il y a aussi des artistes qui font partie de la communauté et où l'objectif c'est aussi de montrer à la population que nous on accompagne que ça peut être des modèles, ça peut être des personnes qui montrent qu'on peut réussir, et l'idée c'est de mettre le travail de ces personnes en avant, même si le sujet qui est désormais traité n'est pas forcément sur la thématique LGBT.
Oui, donc un enjeu d'accès à la culture, enjeu de visibilité aussi. Alors j'ai pas hurlé le mot comme le fait Brice Lagenèbre dans son spectacle, puisqu'il n'est plus avec nous, il aurait pu le faire. Mais du coup, comment ça se passe concrètement? Comment le centre homogène, est-ce qu'il a été concerté pour la programmation de certains spectacles?
Non, parce que là, on laisse pour le coup toute liberté aux Quinconces, dont c'est le métier de trouver des spectacles. Mais en revanche, on va travailler en partenariat dans le sens où ils vont nous présenter leur saison et nous dire, bah voilà, tiens, tel spectacle peut intéresser votre public, et on va se positionner dessus et faire, par exemple, parfois comme ce soir où à l'issue de la représentation du PD, homogène à un stand pour pouvoir accueillir le public et expliquer le sens de ces actions aujourd'hui, puisque le spectacle se termine en 2013, mais nous on est encore là en 2025, donc on explique aussi aujourd'hui les combats qui se sont menés entre 2013 et 2025 et tous ceux qui y a encore à mener.
Alors entrons un peu dans cette programmation queer qui s'ouvrait déjà avec le spectacle Le PD. Marie Dilasserre et Hélène Soulier proposent par exemple une relecture de contes avec Podane, La fête est finie. Alors comment est-ce qu'on adapte cette histoire aux questions qui traversent la communauté LGBT, Julie Lecomte?
Ben, en fait, là, c'est tout un travail, effectivement, de réécriture, de réinterprétation et de point de vue, en fait, pour redonner... On désaxe un peu les contes et on vient redonner la parole à des voix qui étaient jusqu'ici invisibilisées. C'est aussi tout le travail que va faire Lorraine Marx, par exemple, qui va venir en janvier dans le temps fort des Inspirantes dont parlait Rémi tout à l'heure. Lorraine Marx, elle nous dit qu'elle n'écrit jamais de personnages fictifs et qu'elle s'inspire toujours de la réalité. Le spectacle là dont je vous parle s'appelle Portrait de Rita. Ça ouvrira le temps fort des Inspirantes le 8 et le 9 janvier. Elle est partie de l'itinéraire d'une femme qui part du Cameroun et qui vient vivre en Belgique. Une femme qui était indépendante, une femme qui était entrepreneuse, qui était respectée, et qui va arriver en Belgique et qui, elle et son petit garçon, vont vivre le racisme systémique et des violences policières et de la discrimination. Et Lorraine Marx est une figure emblématique, écrivaine, autrice, performeuse, très engagée. On l'a accueillie pour la première fois l'année dernière avec deux spectacles, et là elle revient pour ce portrait de Rita avec une performeuse belge qui s'appelle Banga Pilipili, qui interprétera cette Rita, et ça sera sa création. Elle a été créée la semaine, on est quand là, elle est créée
là, hier. Les premières tombées presse sont en train d'arriver, et ça va être à nouveau un uppercut.
Mais c'est intéressant que vous fassiez directement ce lien avec la programmation des Inspirantes, alors qu'on parlait de programmation queer. C'est lié, en fait, la programmation autour des communautés LGBT et la programmation des Inspirantes, qui est plutôt centrée sur le discours féministe.
En même temps, Peau d'âne, la fête est finie, que vous citiez en préambule, c'est dans un temps fort qui s'appelle Enjeu, un temps fort destiné à la jeunesse. Donc je dirais que les choses sont plus, en tout cas, sont moins monolithiques qu'il pourrait y paraître. Il y a un autre spectacle d'un auteur qui s'appelle Marcos Caramés Blanco, et là, pour le coup, c'est dissocié de entre, c'est dissocié des inspirants, de temps fort en jeu. Donc,
c'est variation, c'est ça?
C'est ça. C'est X variation et ce qui m'a pris.
Donc X variation, c'est un spectacle sur un enfant queer, une pièce qui aborde entre autres l'identité queer. Alors oui, Marcos Caramés Blanco, on l'avait reçu précédemment dans une émission sur Radio Alpa pour parler d'une pièce qui mettait en avant l'identité queer dans les campagnes, et donc qui revient cette année avec deux autres pièces, dont une qui parle justement d'un enfant queer, et c'est un solo. Alors qu'est-ce qui lui arrive en fait à cet enfant? Alors vous faites comme ça, vous faites un signe approximatif de la main, Rémi Rosier.
C'est pas vraiment un enfant queer dans le sens où ce serait son identité de genre ou son orientation sexuelle. Là, c'est un enfant qui est intersexe, donc c'est aussi l'objectif d'apporter au public la compréhension de ce que vivent ces personnes-là, dont là, la différence est pour le coup biologique et invisibilisée, alors que pour le coup, c'est vraiment quelque chose de naturel. C'est pas un mode de vie, c'est pas une orientation sexuelle, c'est pas...
Queer, c'est une connotation plus culturelle, c'est ça?
Queer a une connotation culturelle. Après, queer, c'est aussi, voilà, le fait d'être en dehors des normes sexuelles et de genre, ça va donc inclure aussi les personnes intersexes, mais la différence, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive au cours de la vie, là, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. On parle d'enfants qui naissent comme ça, et souvent, ça, c'est donc aussi une thématique qui est encore autre, même si, forcément, leurs vécus vont aussi se rapprocher du reste de la communauté LGBT.
Oui, donc il y a différentes thématiques qui sont abordées lors de cette programmation. Les Quinconces et l'Espal proposent aussi un atelier aux étudiants de l'INM, l'Institut National du Music Hall, en lien avec le spectacle Madame Hausbachung et Sébastien Vion, de Sébastien Vion, pardon, et avec l'exposition aussi de Sylvain Vavran. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette articulation entre cet atelier, cette exposition et ce spectacle?
Alors, donc là, effectivement, là, on va dans un autre registre de la programmation, mais peut-être juste pour rebondir sur cette programmation qui pourrait être éditorialisée queer à certains...
Oui. On a appelé programmation queer pour une meilleure compréhension à la radio. Ça. Il n'y a pas officiellement de programmation queer dans la programmation de la saison.
Mais
des
en tout cas, de se dire que nos choix de spectacles et puis des artistes que nous accueillons sont complètement en résonance avec notre temps, puisqu'on est là pour promouvoir des œuvres qui sont en train de se créer, répéter aujourd'hui, et en fonction des préoccupations des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Et donc, on pourrait faire le constat qu'effectivement, beaucoup d'artistes traversent ces problématiques-là, ou en tout cas,
ces enjeux-là.
Ouais, c'est pas des enjeux, mais en tout cas, ces questionnements-là qui sont aussi très civilisationnels, en fait. Hein. Et puis aussi pour nous, c'est aussi ces préoccupations traversent l'ensemble de la société et aussi des jeunes gens. Donc, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on montre, quelles œuvres on montre, quels artistes on accueille, font partie complètement de nos préoccupations et de la ligne éditoriale qui est la notre à la scène nationale. Maintenant, pour revenir à l'INM, à l'Institut National du Music Hall, c'est pour nous une relation là, effectivement, on est avec Rémi de l'association Homogène, et notre action, elle est large, et elle concerne une population, en tout cas, quelles sont les personnes qui vivent au Mans, quelles sont les associations avec lesquelles on peut avoir développé une complicité, une connivence en fonction de certains enjeux. Et l'Institut National du Music Hall, donc, qui est le seul centre de formation d'apprentis de France qui travaille la question du cabaret et du music hall. On a de la chance qu'il soit au Mans depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et avec une équipe pédagogique extrêmement dynamique, et on les a rencontrés il y a 4 ans maintenant, et on a inventé un partenariat avec eux, et aujourd'hui ce partenariat fait qu'on leur fait une carte blanche, au Petit Théâtre, donc ça s'appelle l'INM Oz, juste avant le spectacle
Madame
Oz Bachung. Et donc là, on est avec des créatures. Donc en fait,
c'est quoi des créatures ?
Bah en fait, c'est pour des artistes, en tout cas comédiens, comédiennes, c'est l'art de la métamorphose. Donc comment ces artistes, par différents artifices, à la fois du maquillage, des costumes, comment on devient un autre sur le plateau.
Et c'est rapproché du drag ou c'est différent encore ?
Bah, c'est assez proche quand même. C'est, alors, je ne suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas là faire toute une conférence sur ce qu'est le drag ou la créature, mais en tout cas, c'est vraiment sur l'art de la métamorphose et proposer des êtres qui sont hybrides. Et donc, il y a des masterclass qui vont se faire, en tout cas avec une des créatures qui s'appelle Julien Fantou. C'est le cabaret de Madame Arthur qui est à Paris, donc qui propose ce spectacle là, et on va travailler avec des jeunes gens de l'INM qui sont actuellement en apprentissage et puis des anciens qui sont sortis sur un spectacle. On leur fait une carte blanche et eux-mêmes vont s'initier à cet art-là. Et je trouve que pour nous aussi, c'est être en tout cas en porosité avec aujourd'hui ce qui se crée sur nos scènes, parce que de plus en plus aussi d'artistes s'emparent de l'axe du cabaret, du musical. C'est-à-dire, il y a un autre spectacle au mois de novembre, Estelle Meyer, elle chante, elle danse, elle est comédienne aussi, donc c'est aussi un art qui est pluriel. Et donc on a aussi envie, tout à l'heure je parlais de l'espace public, mais proposer aussi des spectacles qui sont aussi pluriels et multiples et qui ne sont pas monolithique. Donc ça, c'est important dans ce qu'on a envie de développer ici.
Alors, on l'a compris, ces quelques minutes, avec les différents éléments qui ont été soulevés, il y a quand même certains enjeux politiques au sein de ces thématiques-là. Est-ce que vous assumez cette dimension politique avec ces différents spectacles programmés ?
Ah bah, politique dans le sens de valeurs qui sont partagées, absolument. Se dire que nous sommes là pour, en tout cas, proposer aux spectatrices et aux spectateurs de nouvelles formes de pensée, de s'interroger qui est l'autre, qui est l'autre, qu'est-ce qu'une femme, et puis toutes ces expériences de pensée nouvelles, en fait, vous le disiez tout à l'heure, hier, les personnes, les voisins, la voisine qui regardaient le spectacle, le PD, se sont dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, c'est quoi un ovni, puis ils restaient, puis peut-être certains aussi se sont complètement, se sont dit, ah, voilà, mais c'est en tout cas laisser la place à d'autres points de vue possibles. Et donc, Brice le disait très bien tout à l'heure, quand on voit qu'une une directrice d'école se suicide le jour de la rentrée parce qu'elle est victime d'homophobie, humainement, juste humainement, de pouvoir se dire qu'ici, dans les théâtres, d'ailleurs que nous sommes des théâtres dits « safe place » parce qu'on a signé une charte avec Cap Humay 72 et qu'ici, on est à l'abri de toute discrimination, de toute violence. Il me semble que c'est une nécessité et c'est essentiel et c'est ainsi qu'on veut positionner le projet de l'établissement.
Alors très rapidement, avant que je passe la parole à Jean-Yves Breteau pour évoquer la programmation familiale, comme chaque année, on retrouvera les 3 ans de temps fort de cette saison, les inspirantes, on en a parlé un peu, mais aussi Enjeux en février, consacré à la jeunesse, et Vivant en mars-avril, sur l'écologie et les mutations de nos sociétés. Donc on retrouve bien vos 4 temps forts. Est-ce que ça veut dire que vous avez pu trouver les ressources pour pallier aux coûts budgétaires de la région Pays de la Loire, survenus dans le budget 2025 et que vous évoquiez tout à l'heure ?
Les ressources, on les a, trouvées en renonçant à certaines propositions.
Il y a eu des renoncements quand même.
Absolument. Là, le temps fort à ciel ouvert, si on compare à la saison dernière, il est réduit de 50%. On s'en rend pas compte, hein, comme ça, forcément. Mais en tout cas, dans les charges artistiques, il est réduit de 50%. Il y a moins de spectacles, il y a moins de levées de rideaux. Là, le spectacle Grand Peur et Misère du Troisième Reich, au bout de 2 jours, il y avait déjà plus de place. L'autre spectacle, Marius, c'est la même chose. Donc, ça veut dire une capacité pour nous à accueillir moins de personnes. Donc là, on est en train de voir comment on pourrait... en fonction là, des bons taux de remplissage, nous avons aussi augmenté le prix des places.
Donc, parce que ça limite le nombre de spectacles, mais ça limite aussi le nombre de personnes que vous pouvez accueillir par spectacle.
Bah oui, de fait, si on a moins de représentation, la jauge elle est réduite. accueillir une seule fois Grand Peur et Misère du Troisième Reich, c'est accueillir 850 personnes. L'accueillir deux fois, c'est 1100. Accueillir trois fois, au fait, l'addition. Donc, c'est pour nous aussi notre capacité à mener le plus largement possible nos missions de service public et cette continuité-là de service public. Donc, oui, tout ça est en cascade. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que le public réagit très bien à la programmation qui est faite. Donc on est déjà pour certains spectacles à guichet fermé avec des prévisionnels de vente. Donc là je rentre dans notre jargon qui dépasse en tout cas du réalisé, qui dépasse notre prévisionnel. Et donc on se dit, voilà, vous comprenez plus, mais en fait on gère un établissement. Donc évidemment il y a un budget et on cherche des ressources et on travaille à ça. Et en tout cas l'une des ressources possibles, on a augmenté nos tarifs. On fait parfois des locations, une mise à disposition des espaces qui sont facturés. Voilà, on trouve d'autres sources de financement qui sont plutôt du domaine privé.
Et alors, on va terminer. Ah, Jean-Yves Breteau avait une question, non? Eh bien, on termine sur votre partie quand même, Jean-Yves Breteau. Je vous laisse quand même la parole pour parler justement de la programmation familiale.
Oui, Julie Lecomte, vous êtes directrice adjointe de la scène nationale des théâtres et quinconces L'Espal. Le samedi 20 septembre, ce sera à 16h30 à L'Espal. Vous ferez une présentation de la programmation familiale de la saison. Comment va se passer justement cette présentation?
Alors ça, c'est une première et on voit que déjà il y a du succès parce qu'il y aura pour l'instant à peu près 81 personnes. C'est sur réservation, donc on invite les gens à réserver. En fait, on a adossé cette présentation à un spectacle. On propose aux gens de venir à 16h30 à l'Espal. Et là, il y a toute l'équipe médiation, relations publiques qui va être sur le pont, accueil billetterie aussi qui va être sur le pont. Avec quatre petits spots dans le théâtre et on invite les familles, enfants et parents, et on va leur parler de cette à peu près quinzaine de spectacles jeunes publics et familles, donc à voir de 4 mois à 12 ans. L'idée c'est de s'adresser à ces familles et à ces enfants pour leur donner envie de venir voir les spectacles, et avant ou après ils auront la possibilité d'aller voir le spectacle dont parlait Virginie tout à l'heure, It Hip Hop Parade, qui est gratuit à faire avec les parents avant ou après le spectacle. Il y aura un petit goûter, il y aura des petites surprises. Et en fait, c'est comme un espèce de speed dating où pendant 10 minutes, on vous parle d'un spectacle, puis après vous changez de lieu. Je spoil pas, mais voilà, il y a 4 explorations dans l'Espal proposées aux familles.
Vous le disiez, Julie Lecomte, c'est une nouveauté de cette année. C'était important de faire un focus sur l'offre culturelle destinée aux familles.
Alors en fait, depuis longtemps, la scène nationale a une programmation vraiment destinée aux enfants et à leurs parents, grands-parents et familles. Mais on s'aperçoit que c'est encore assez peu connu et que les gens repèrent effectivement les grands spectacles, comme disait Virginie tout à l'heure, Brecht, etc. Mais que du coup, toute la programmation destinée aux familles, elle est parfois un petit peu plus souterraine, où les gens ne la voient pas. Là, l'idée, c'était de dire, on fait le 4 septembre, on a fait une présentation de saison au public, et pourquoi on n'en ferait pas une pour les petits, en fait. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un temps dédié, rencontrer les familles, échanger avec eux. Il y a une offre tarifaire qui est extrêmement intéressante.
Ah, j'allais y venir, oui.
Bah, voilà, la carte, donc, coûte 10 euros. Mmh. Elle permet aux enfants, jusqu'à 3 enfants jusqu'à 12 ans, d'avoir un billet à 6 euros au lieu de 9. Et le parent a les mêmes avantages que la carte adhésion qui coûte 20 euros pour l'ensemble de la saison. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais ça c'est pareil, c'est pas trop vu. Donc l'idée c'est vraiment d'en faire la promotion sur cet après-midi-là, d'avoir un temps d'échange avec les familles et que les gens qui ne viennent peut-être qu'à un spectacle se disent que c'est intéressant d'emmener les enfants plusieurs fois dans la saison, pas juste une seule fois.
Je crois que dans cette offre destinée donc aux familles, il y a aussi une offre d'accès à d'autres partenaires de la scène nationale en termes d'accessibilité tarifaire.
Oui, parce qu'en fait, on travaille vraiment en réseau sur le territoire et l'idée, c'est pas que chacun ait sa petite chapelle et garde ses publics, mais bien au contraire que les publics soient mobiles et bougent. Donc effectivement, quand vous avez une carte, vous avez des tarifs réduits et vice-versa au plongeoir, à super format, etc. Donc voilà, là, l'idée, c'est de se dire on peut circuler d'un lieu à l'autre et on va trouver des avantages financiers à aller d'un lieu à l'autre, et les structures travaillent entre elles en bonne intelligence. Aujourd'hui, c'est fondamental qu'on mutualise en fait entre les structures et non pas qu'on soit chacun de notre côté.
Voilà, pour donner une illustration, et très rapidement, Le poisson qui vivait dans les arbres, c'est le premier spectacle que les familles pourront aller voir.
Oui, alors là, c'est le premier spectacle, c'est Sylvain Riéjou justement qui était là hier à l'Espal et qui était au spectacle hier au PD, donc qui est à la fois spectateur et artiste de la saison. Ça mélange à la fois de la danse et de l'illustration. Donc c'est vraiment un spectacle extrêmement accessible, y compris pour des enfants qui ne vont jamais charmer au spectacle parce que c'est très visuel, c'est très ludique, c'est très doux. Il y a une grande délicatesse dans le travail chorégraphique de Sylvain Riéjou. Et là, associé à l'illustration, ça a fait un spectacle avec un imaginaire où effectivement on peut croiser un poisson qui va dans les arbres.
Alors, d'après Charlie Pless, quand on est parent, on est plein de craintes de s'ennuyer un peu quand on emmène ses enfants à un spectacle jeune public. Est-ce que d'après vous, cette crainte de Charlie Pless est une crainte légitime ou est-ce qu'on peut être adulte et redevenir un enfant en partageant ses spectacles justement en famille?
C'est la crainte de mon personnage de journaliste.
Hein, d'accord, mais je me porte en faux en fait. C'est pas fondé du tout cette histoire-là. On a même des gens qui veulent avoir la carte mais qui n'ont pas d'enfant. On leur dit mais trouvez un enfant dans la rue, n'importe lequel, et prenez la carte petits et grands. Mais en fait non, aujourd'hui, les artistes qui font des propositions artistiques et qui créent des œuvres en direction de l'enfance et de la jeunesse ont véritablement des univers qui sont extrêmement riches et on peut tout à fait venir au spectacle, même sans enfant. On peut être très surpris parce qu'en fait, ça aborde aussi des thèmes universels qui sont, voilà, comment on devient soi. Et en fait, tous les artistes posent cette question-là.
Ça éveille l'esprit, ça éveille l'esprit.
Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un être libre qui s'affirme et qui trouve sa place dans le monde aujourd'hui? Les grands artistes font. On va avoir par exemple Fia Ménard, qui est une grande plasticienne, performeuse, qui va créer cette année Nocturne Parade pour les enfants. Donc là, il y a des rendez-vous comme ça à ne pas louper cette année pour la famille.
Merci beaucoup Virginie Bocard et Julie Lecomte de votre participation à cette émission en direct de la scène nationale des théâtres Les Quinconces L'Espal. Merci à Rémi qui représentait le collectif
Homogène,
le collectif LGBTI. Merci à Emmanuel Travers qui est chargé des relations presse pour sa contribution à la préparation de cette émission. On vous souhaite évidemment une très très belle saison culturelle 2025-2026 à vous, à vos équipes, au public qui viennent découvrir votre programmation, mais aussi à un public curieux pour prendre le risque de se trouver tout à fait réjoui de voir un spectacle, parce que ça arrive très souvent quand on est curieux. Merci à Charlie Pless pour cette co-animation et merci à Evan Guett pour sa réalisation technique.
Et merci Jean-Yves Breteau.
À ciel ouvert. Temps fort des Quinconces et L'Espal, une émission de Radio Alpa présentée par Charlie Pless.